Masque tombe sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Jean-Loup Dubruc de l'association Chasse en Toit.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour Jean-Loup.
Bonjour Elisa.
Tu vas bien ?
Très bien.
Super, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Alors, je m'appelle Jean-Loup Dubruc, comme tu l'as rappelé. Je représente actuellement devant toi l'association Chasse en Toit. On a tendance de plus en plus à préciser Chasse en Toit 54, parce que via les réseaux sociaux et les recherches internet, on s'est aperçu que pas mal d'autres associations avaient le même nom que nous. Mmh. C'est une association donc de protection animale, association de type 1901, comme on dit souvent, qui existe depuis 18 ans maintenant, qui a été créée à l'époque par Jacqueline Vélex, bien connue sur la place de Nancy en matière de protection animale, et qui est toujours notre présidente actuellement.
D'accord. Et donc toi, tu es le
trésorier de l'association depuis 15 mois à peu près, et en charge d'un certain nombre de choses au sein de l'association, compte tenu du fait que notre présidente, avançant en âge, elle ne peut plus nécessairement être présente sur le terrain, tout en continuant à être effectivement l'inspiratrice de l'association.
D'accord. Et toi, c'est quoi ton parcours de vie ? Qu'est-ce que tu as fait avant d'être trésorier de l'association ?
Alors, avant d'être trésorier, effectivement, j'ai eu un parcours. J'ai fait des études de médecine que j'ai poursuivies jusqu'à, disons, un stade assez avancé, sans aller jusqu'à ma thèse. J'ai pratiqué la médecine d'urgence à Nancy, à l'époque où on avait ce qu'on appelait un SAMU rouge, donc auprès de nos amis les sapeurs-pompiers. Et puis j'ai complètement bifurqué, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, vers l'informatique, dans laquelle j'ai exercé mon métier pendant tout le reste de ma carrière, en fait. D'abord dans le privé, puis auprès de l'université de Nancy, à l'époque université Henri Poincaré, depuis fusionné avec les autres universités. Et puis, je me suis orienté plus précisément vers l'audiovisuel et j'ai exercé les responsabilités de responsable au niveau de la zone francophone, EMEA, mais zone francophone, pour un grand groupe américain de matériel audiovisuel.
D'accord. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé à être trésorier de l'association ?
Alors, ma compagne a longtemps été aux côtés de Jacqueline Vélex en tant que secrétaire. Elle a aider l'association dans un certain nombre de tâches quotidiennes, que ce soit la reproduction de documents, l'envoi de documents, etc., des tâches de secrétariat. Et puis elle a petit à petit laissé tomber cette action. Il faut dire que Jacqueline Vélex est un fort caractère, que donc elle est très exigeante et qu'elle demande beaucoup, et qu'au bout d'un moment, les gens, éventuellement, pour le chemin de vie qu'ils ont pris, décident de s'éloigner un petit peu de l'association, ce qui a été le cas de ma compagne. Et puis, on participait quand même aux assemblées générales, par principe, puisqu'on était adhérents. Et à un moment, il s'est trouvé que la présidente cherchait un trésorier, ce que j'ai proposé de faire en me disant que, ma foi, le rôle de trésorier n'était pas un rôle très captivant, au sens de prendre beaucoup de temps. Ce qui s'est révélé une très mauvaise appréciation, puisque j'y consacre quand même beaucoup de temps, puisque je suis aussi présent sur le terrain auprès des nourrisseurs, je suis aussi présent auprès des chats pour toutes les questions d'adoption. Comme je vous le disais, il y a des choses qui ne peuvent plus se faire comme elles se faisaient avant. C'est lié à l'évolution, effectivement, des réglementations, c'est lié aussi à l'évolution des pratiques, l'irruption des réseaux sociaux, qui sont quand même un facteur on ne peut plus contourner. La plupart des communications avec nos adhérents se font via les réseaux sociaux. Il nous arrive de temps en temps, effectivement, de communiquer directement auprès d'eux, ne serait-ce que pour organiser les assemblées générales légales qui sont une obligation pour les associations. Mais pour beaucoup de choses, nous avons effectivement développé les réseaux sociaux, développé des pratiques de terrain qui sont un petit peu différentes et qui ont été obligées de se modifier, de s'améliorer et de se rendre surtout plus conforme à la réglementation, laquelle, pour des raisons que chacun connaît, la série des fameuses lois L200 quelque chose, dont la fameuse 214 qui sert de nom à une autre association qui, elle, est beaucoup plus orientée sur les maltraitances animales. Mais il y a toute une série de lois en L200 quelque chose qui nous oblige maintenant à avoir des pratiques extrêmement rigoureuses qui n'étaient pas toujours le cas dans les anciennes associations. Il y a 20 ans, on ne voyait pas...
Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que trésorier ?
Alors, moi, j'ai commencé par effectivement essayer de mettre en conformité, d'une part, les aspects financiers. Le rôle du trésorier, après tout, c'est essentiellement celui-là. Et puis, on a été sollicité par la préfecture, la fameuse DDPP, pour se mettre en conformité sur d'autres aspects, qui sont des aspects plus légaux. Conformité avec, effectivement, les nouvelles réglementations. Conformité avec des réglementations qui ont été votées en 2021, qui sont entrées en vigueur en juillet 2022. Donc tout ça est des choses nouvelles, qui n'étaient pas de pratiques courantes et qui n'étaient d'ailleurs pas du tout en vigueur anciennement. Et donc moi j'ai joué un peu ce rôle de mise en conformité des choses et d'amélioration en gros de la légalité de nos opérations et de nos actions.
On va reparler un peu plus en détail de l'association. On va juste écouter oui. Tout le monde veut devenir un cat des Aristochats et puis on revient juste après.
Tout le monde veut devenir un cat parce que chaque quand il est cat retombe sur ses pattes.
C'est vrai.
Tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
C'est comme les bottines à boutons.
Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou.
Ça suit comme un pied.
Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis.
Quelle calamité.
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter.
C'est un cat, le seul qui sache s'acharne à swinguer.
Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes.
Quand tout le monde veut devenir un cat. Une cloche, quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied.
Oh, inky tinky tinky.
Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité.
Oh, inky tinky tinky.
Oui, tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des cats. Qu'à jouir en d'autres clés, modulées, oh oui, ça me plaît, car j'adore faire certaines petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée, la grande nuit va commencer.
Nous les laisserons, allons.
Tout le monde
Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN.
On est toujours en compagnie de Jean-Loup Dubreuc de l'association Chasse en Toi. Alors Jean-Loup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'association? Comment est-ce qu'elle s'est créée? Quand?
Alors notre présidente, comme je le disais tout à l'heure, a toujours, je crois, été active dans le domaine de la protection animale. Elle a fait beaucoup, même avant la création de l'association, elle était déjà très impliquée. Et puis, elle a regroupé autour d'elle, comme souvent dans ce genre de création d'associations, elle a simplement regroupé autour d'elle un certain nombre de personnes qui pensaient la même chose qu'elle et qui étaient prêtes à la soutenir. Mmh. Ce qui a été le cas depuis tout ce temps, puisque nous sommes une association qui ne bénéficie non pas exclusivement des dons des membres, mais aussi un petit peu, dans une moindre mesure, de subventions, que ce soit des subventions par des fondations ou des associations nationales. Typiquement, effectivement, la Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, j'en passe quelques autres. Et puis des collectivités locales, effectivement, du Grand Nancy, globalement.
D'accord. Voilà. Quelles sont les actions que vous menez au sein de l'association ?
Alors il y a plusieurs points sur lesquels on agit et qui sont des points relativement indépendants, même si le fait d'être sur le terrain pour certaines d'entre elles nous facilite le travail pour d'autres. La première, la plus régulière, la plus constante, c'est le nourrissage des chats. On y reviendra peut-être sur l'aspect réglementaire, mais autant le nourrissage des animaux errants n'est pas autorisé, autant le nourrissage des animaux libres, c'est-à-dire des chats libres qui ont donc été identifiés, stérilisés, qui ne sont plus susceptibles de proliférer. Lui est non seulement conseillé, mais c'est même une obligation, c'est une obligation morale qu'on se donne, de les nourrir et d'essayer de leur rendre la vie plus facile. Mmh. Donc le premier aspect, c'est le nourrissage, parce que contrairement à ce que disait la chanson, tout le monde veut devenir un cat par le temps qu'il fait en ce moment. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de passer ses nuits dans les mêmes conditions que nos chats, même si je sais que malheureusement un certain nombre de sans-abri sont dans cette situation identique. Donc, premier aspect, le nourrissage, ce qui nous permet d'être sur le terrain à un certain nombre d'endroits, de voir un petit peu comment évoluent certaines populations, éventuellement de les tester, puisqu'il y a un certain nombre de maladies et de contaminations virales qui se répandent dans la population. Donc, il s'agit de vérifier chaque fois qu'on le peut ou chaque fois qu'on a un indice qu'il y aurait un souci, vérifier cette population-là, éventuellement l'isoler, puisque la contamination ne donne pas lieu à des traitements, mais elle peut donner lieu à un isolement des chats contaminés en question. Donc ce premier aspect, le nourrissage, nous permet effectivement de déboucher sur la surveillance de certains groupes de chats qui se sont rassemblés autour des points de nourrissage. On agit aussi à la demande, et dans le cadre de la loi, ce qui peut s'avérer un peu plus compliqué de temps en temps, en matière de, comment dirais-je, d'aide ou de recueil de populations, du moins de portée, par exemple, une portée de chat qui va nous être confiée, soit par une mairie, à sa demande express, soit par des particuliers, une portée avec parfois la maman qui va nous être confiée, à un stade plus ou moins avancé de l'éducation du chat, qui va nous permettre ou pas de continuer, mais on les sort de la rue, ça reste globalement l'intention initiale. Le côté émotif de notre action, c'est qu'effectivement, ça ne nous plaît pas de voir les chats dans la rue, éventuellement à la portée des maltraitants, c'est surtout à la portée des intempéries et autres, et de l'absence de nourriture. Donc on essaye d'agir à ce niveau-là. Et puis il y a, je crois, une autre dimension, qui est de participer à un certain nombre de forum d'association, à certaines émissions de radio, par exemple, pour essayer, non pas de répandre la bonne parole, mais d'expliquer nos actions. Parce que les associations de protection animale ont gardé un petit côté, comme ça, de personnes âgées qui s'occupent de chats, mais sans toujours avoir la rigueur nécessaire dans la gestion. Alors que bon, nous, on essaie de mettre un petit peu de rigueur dans ces choses-là. Alors on a des tas d'autres associations avec qui on entretient d'excellents rapports, hein, on pourrait les citer, mais vous les connaissez sans doute. Et puis on a des tas d'organismes aussi avec qui on entretient d'excellents rapports. Il y a comme ça des associations qui d'ailleurs nous aident de temps en temps à recueillir les chats quand nous ne pouvons pas les recueillir nous-mêmes par nos propres moyens. Parce que dans la réglementation, nous sommes considérés comme un refuge sans hébergement, Les deux mots sont un petit peu antinomiques, mais on comprend quand même. C'est-à-dire que nous pouvons recueillir des chats, c'est dans nos missions, c'est reconnu par la DDPP, j'en parlais tout à l'heure, par la préfecture. Mais par contre, nous n'avons pas de lieu dédié qui serait conforme à la réglementation pour conserver les chats dans un lieu unique, les garder captifs dans ce lieu.
Donc c'est chez les membres de l'association qu'on peut retrouver les
chats. C'est chez un certain nombre de membres, qui sont parmi les plus actifs, j'allais dire, c'est sûrement un des nerfs de la guerre dans une association comme la nôtre, indépendamment des moyens financiers dont on parle souvent, mais c'est certainement effectivement les familles d'accueil. À cette heure-ci, si on me proposait, là, dans les 10 minutes qui suivent, un message qu'on me dise il faut recueillir, il faudrait recueillir une portée avec la maman dans la journée, le premier problème qui se poserait, c'est de trouver d'ici ce soir une famille d'accueil.
D'accord.
J'ai pas à cette heure-ci le moyen de le faire. J'ai par contre le moyen, éventuellement, dans la semaine ou dans les 15 jours, d'envoyer ce petit monde chez le vétérinaire et ou de le nourrir. Donc c'est bien un aspect important, c'est que le fait qu'on soit sans hébergement fait que, à la fois, nous n'avons pas les grosses contraintes, effectivement, d'un véritable refuge, avec quand même des contraintes sanitaires, des contraintes de présence permanente de personnel. C'est pour ça, souvent, qu'on ne peut pas être uniquement avec des bénévoles quand on veut entretenir ce type de refuge. Mais par contre, effectivement, on compte sur des bénévoles, en gardant toujours ce principe de bénévolat, mais pour les familles d'accueil.
Justement, comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ?
Alors, c'est assez simple. Le plus simple pour nous trouver, ce sont effectivement les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui, actuellement, est suivie par un peu plus de 5500 personnes. Donc, vous pouvez nous trouver là. Si vous nous trouvez, mais que vous avez l'impression que c'est une autre association, vérifiez bien que c'est l'association qui a son siège social à Laxou, donc dans le Grand Nancy. Et puis, via Messenger, qui est souvent lié à la page Facebook, vous pouvez nous trouver assez facilement.
D'accord.
On a par ailleurs, si vous faites une recherche sur Google ou sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous nous trouverez, mais sur des sites qui sont anciens et qui n'ont pas toujours pu être retirés du circuit. Et donc, le mieux, c'est la page Facebook.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter Thomas O'Malley, toujours des Aristochats, et puis on revient juste après.
Je vois qu'on a des références.
J'adore manger de la paella ainsi que de la pizza, mais je fais ron-ron devant un gros poisson. Oui, c'est moi le beau Walter. Giuseppe Désiré, Thomas O'Malley, O'Malley le chat de gouttière. Je suis un grand voyageur, joint la fille de l'air, goûtant la complice fraîcheur, l'herbe printanière. J'adore aussi me balader dans les rues de ma cité. Ouais, à tous mes frères de l'élite sociale, comme aux petites minettes pas trop mal, je proclame. C'est moi le bon Walter, Giuseppe Désiré, Thomas O'Malley, O'Malley le chat de gouttière.
Oh, mon Dieu, monsieur, vous semblez apparenté à toute l'Europe.
C'est vrai, je suis un chat absolument unique. Je suis roi de la rue, je fais ce qui me convient. Je raffole d'imprévus, la planète m'appartient. Et si votre route est mon but, votre chance est unique. Calcutta ou Rome, je suis votre homme, n'est-ce pas? Magnifique, qu'en dites-vous?
Oh, regardez, un chat de gouttière. Chut, écoute.
Si je n'ai que mes rêves, je vis heureux comme ça. Quand je vois la chance qui se promène, je lui fais signe du doigt. À quoi bon me préoccuper du chemin que je dois emprunter? Où qu'il veuille aller, je saurai l'aimer. Aussi n'allez pas vous inquiéter pour moi. Ouais, c'est moi le beau Walter, Giuseppe Désiré, Thomas O'Malley. O'Malley, le chat de gouttière. C'est vrai? Et de ça, j'en suis vraiment fier. Ouais.
Bravo, c'est excellent. Vous avez un grand talent.
Les masques tombent sur RCN.
On est toujours en compagnie de Jean-Loup Dubreuc de l'association Chasse en Toi. Alors Jean-Loup, comment est-ce que à travers l'association on peut adopter un chat? Comment ça se passe?
Alors la procédure, elle est très rigoureuse et très encadrée. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'annonces du type « donne chat contre bon soin ». C'était pleine de bonne volonté, ces annonces, mais qui normalement ne devraient plus exister. Pourquoi ? Un chat ne doit plus être échangé, ne doit plus changer de lieu sans être identifié. Donc le plus souvent, les chats qui étaient confiés à des adoptants par ce biais-là n'étaient pas identifiés. Ça, c'est une obligation. Il est absolument interdit de faire adopter un chat avant 8 semaines. Et nous, on est plutôt sur une stratégie vis-à-vis de l'éducation des chatons, de ne pas faire adopter, quand on parle de chats non adultes, donc de chatons, de ne pas les faire adopter avant 3 mois, 3 mois et demi. Ça semble bien et meilleur pour leur éducation. Parce qu'un chat qui est sevré n'est pas nécessairement un chat qui a terminé son éducation. Mmh. Et la maman joue un rôle absolument fondamental. Donc tant que la maman n'a pas repris, j'allais dire, une autre portée, elle va se consacrer à ses chatons. Et donc il vaut mieux laisser faire cet aspect-là des choses. Donc là où on encadre ça, elle oblige depuis, justement, j'en parlais tout à l'heure, 2022, elle oblige la signature par le futur adoptant d'un CECA, le certificat d'engagement et de capacité en vue de l'adoption d'un chat, qui est un document national, c'est le même dans toutes les associations, et il doit être, d'après la loi, signé 7 jours avant l'adoption effective. Mmh. Par contre, une fois qu'il est signé auprès d'une association, je ne sais pas, vous êtes allé le week-end dernier visiter le refuge de la SLPA à Velaine ou à Velaine-en-Haye ou à Mans, vous avez signé le fameux CECA, eh ben, il est valable dans toutes les associations, c'est-à-dire que nous, quand vous allez nous solliciter, parce que vous avez vu sur Facebook un chat qui vous plaît, vous avez le... un coup de cœur, mmh. Vous êtes venu le voir, et ben au moment de venir le voir, dans une famille d'accueil, on va pas pouvoir vous proposer de venir dans le refuge, puisque nous n'avons pas de refuge, mais vous allez pouvoir, après l'avoir vu et l'avoir apprécié, aller le voir en famille d'accueil, c'est même une obligation pour nous. Vous allez nous présenter le fameux CECA, et du coup, nous, on va se fier à ce qui a été signé auprès d'une autre association. C'est un document qui est relativement bien fait, qui prend en compte bien toutes les obligations du futur adoptant vis-à-vis du chat, qui va bien le prévenir aussi des conséquences de son geste, c'est-à-dire que la bonne volonté d'adopter un chat, c'est une chose, mais après il va falloir le nourrir, il va falloir pouvoir l'entretenir, il va falloir pouvoir le faire soigner le cas échéant. Et au-delà de l'aspect petite boule de poils de 2 mois, un chat qui vit auprès des humains, contrairement à ce qui se passe dans la nature, quand c'est un chat libre ou un chat errant, un chat domestique, c'est un chat qui va vivre entre 15 et 20 ans.
Donc c'est une responsabilité sur le long terme.
C'est une responsabilité sur le long terme.
C'est quelque chose à prendre en compte.
Oui, tout à fait. Ça conduit certaines associations à être très hésitantes, par exemple, pour proposer des chatons, très jeune âge, à des personnes âgées, pour des raisons qui sont que nous, on voit bien qu'on recueille souvent des chats au moment où les personnes âgées, c'est les circonstances de la vie, et ma foi... c'est comme ça. Soit, effectivement, décède et les familles ne peuvent pas se charger des chats en question. Mmh. Soit, changent de domicile, vont en EHPAD et l'EHPAD n'accepte pas toujours, voire presque jamais, les chats. Donc, dans la procédure d'adoption, il y a cette première étape qui est effectivement la signature du CECA. C'est un engagement. Nous, on considère que, et on a beaucoup simplifié notre contrat d'adoption, puisque la deuxième étape, c'est 7 jours après, si on décrit les choses telles que je les ai amorcer l'adoption réelle, c'est-à-dire que nous, à ce moment-là, on va, après cette visite au domicile de la famille d'accueil, on va nous emmener le chat au domicile de la personne qui adopte, de telle façon qu'effectivement, on puisse apprécier, j'allais dire, hein, ça se passe, c'est pas de l'inquisition, c'est pas vouloir à tout prix fliquer les gens et les futurs adoptants, mais c'est garantir qu'ils aient un minimum de bonne vie, puisque c'est quand même le
accueillir
but.
Le chat voilà. dans de bonnes conditions,
a priori normales, mm-hmm. dans la mesure où, bon, je dois bien dire qu'on s'est de temps en temps fait un petit peu balader par le beau discours de certains, mais c'est très rare. Nous, le plus souvent, on fait adopter de bons chats, je veux dire des chats qui visiblement vont avoir toutes les caractéristiques d'un bon chat, qui ne va pas être ensauvagé, qui ne va pas être tout ça, et on tombe sur de bonnes familles avec des contacts cordiaux et qui se passent bien, et on a régulièrement des nouvelles. Donc la deuxième phase, ça va être effectivement l'adoption réelle. Là, on va signer un contrat associatif d'adoption, qui est un contrat sous sein privé entre l'association et l'adoptant, qui simplement va reprendre les caractéristiques de l'association, les numéros, les identifiants, etc. L'identité et un certain nombre de renseignements sur l'adoptant, les caractéristiques du chat, puisque effectivement il est obligatoirement identifié, le plus souvent pucé, mais ça peut être un tatouage. Il est, le cas échéant, vacciné, avec ou sans rappel déjà effectué. Il peut parfois, en fonction de la durée de son séjour en famille d'accueil, avoir été stérilisé. Et en fonction de tout ça, on demande effectivement, au moment de l'adoption finale, une participation aux frais vétérinaires. En gros, ça va être pour un chat qui a juste eu le minimum, j'allais dire, de mise en règle, c'est-à-dire identification, les premières piqûres de vaccination et puis l'antiparasite, ça va être aux alentours de 145 euros. Et puis pour une chatte, puisque pour les chattes, la stérilisation est plus onéreuse que pour les chats, et puis pour une chatte, avec la stérilisation, avec le rappel des vaccins, ça peut, au bout de 4 mois, monter jusqu'à 200 euros, mais jamais plus. Donc en gros, on va se promener, entre guillemets, entre ces deux valeurs extrêmes, pour un chat qui, effectivement, après, ne va plus nécessiter d'autres soins vétérinaires, sous réserve de bonne santé, pendant un an, puisque après, il n'y a plus de vaccins, il n'y a plus de vaccins à prévoir, etc. Alors, on ne fait pas de tests systématiques contre le FIV et la FELV. FIV, FELV, par analogie d'ailleurs avec le HIV, FIV, FELV, c'est les deux viroses qui sont actuellement en circulation chez les chats, donc qui concernent l'immunodéficience, le sida félin et la leucose féline pour les deux. Il y a de plus en plus de contaminations. On a des sites dont on sait que quand on recueille un chat et qu'on veut essayer de le faire adopter, il est susceptible d'être positif. On s'en méfie et là, ça demande des conditions d'adoption très particulières puisqu'il ne faut pas que le chat soit relâché dans la nature et il ne faut pas que la personne qui adopte ait d'autres chats au domicile, ni qu'elle fréquente ou qu'elle ait des amis qui viennent avec d'autres chats, puisque là, il y aura un risque de contamination. Il n'y a par contre aucun risque dans ce domaine-là. On l'a rappelé récemment sur Facebook, puisqu'on a eu le cas d'un chat qui a d'ailleurs été adopté. Il n'y a pas de contamination croisée avec les autres espèces. C'est-à-dire que le FIV et le FELV sont des virus qui restent cantonnés au chat. Donc la personne qui a adopté a un petit chien, on peut lui proposer d'adopter le chat, et elle l'a proposé fort généreusement, parce qu'on sait d'avance que ce type d'adoption, c'est un petit peu plus compliqué que la petite boule de poil qu'on aime bien cajoler.
Quel type de chats, en général, sont les plus compliqués à faire adopter pour les associations?
Alors, spontanément, vous l'avez relevé, je parle et j'explique la procédure d'adoption en partant du principe qu'on a comme ça une portée ou un chaton et que ils sont proposés à l'adoption et que ça se passe comme ça avec des chats jeunes. Les plus compliqués à adopter, alors les plus compliqués des plus compliqués, c'est effectivement, et c'est le cas de l'adoption récente, et on considère que c'est une victoire, de l'adoption d'un chat déjà âgé, il a quelques années, FIV positif, FELV positif. Ça, c'est compliqué. D'accord. Parce que les gens n'ont plus ce sentiment de petite boule de poil, et c'est un petit peu un sacerdoce de leur part. Les chats adultes, c'est en général moins facile. Il y a de temps en temps des bruits qui courent sur le fait que, des constats sur les réseaux sociaux, que les chats noirs seraient plus difficiles à adopter que l'autre. Nous, on ne le constate pas. On a eu une portée récemment avec 3 chats noirs et un tigré. Les 3 chats noirs sont partis, dont 2 d'ailleurs dans la même famille simultanément. Le troisième a été le premier à partir des 4, et puis celui qui est resté le plus longtemps, une semaine de plus, c'est pas non plus énorme, c'était en fait le chat tigré. Donc nous, on ne constate pas de difficultés particulières, mais c'est vrai que les chats adultes, plus ils sont âgés, et qu'ils ont par exemple des régimes particuliers, parce que nous, autant on peut participer aux frais vétérinaires dans la phase d'adoption, autant après, effectivement, quand il y a besoin d'aliments spécifiques, ça crée une complexité. Alors, je parlais des chats qui sont contaminés. Il peut y avoir aussi le cas des chats chez qui on a constaté une pathologie, un diabète par exemple, ou une calicivirose qui pose des problèmes pulmonaires. On a actuellement, en famille d'accueil, et ce sera sûrement très compliqué de le faire adopter, un chat qui s'appelle Mookie, pour lui donner un nom auprès de vos auditeurs, qui est diabétique. Donc il faut savoir que comme chez les humains, c'est vraiment un diabète insulino-dépendant, donc 3 fois par jour, il faut lui tester sa glycémie.
D'accord.
Et 2 fois par jour, lui faire une injection d'insuline. Donc, pour un chat qui risque de faire des complications liées au diabète, comme chez les humains, et ça, on peut comprendre pour un futur adoptant, ce soit, disons, si c'est débloquant, du moins une difficulté. Mmh. Alors, nous, on est tout prêt dans ce genre de cas à aider sur le plan financier par rapport aux frais vétérinaires qui sont à engager. Nous, on fait aussi ce genre de participation. C'est-à-dire que là, évidemment, un chat, dans ce cas-là, on ne va pas demander à l'adoptant de participer aux frais. C'est au contraire nous qui allons proposer l'inverse. On va inverser un petit peu l'équilibre. Mais par contre, sur la nourriture, bah, effectivement, ça va être des commandes de croquettes particulières, des commandes de bouchées particulières. Parce que, comme pour toutes les personnes qui sont diabétiques, l'alimentation est un peu spécifique et doit être très contrôlée. On ne peut pas se permettre de mettre n'importe quel type de croquettes en accès libre pour un chat qui est diabétique. Il faut contrôler 40 grammes de croquettes, par exemple, par jour, un demi-sachet d'aliments humides, et c'est des commandes spécifiques qui, évidemment, bizarrement, coûtent plus cher que les aliments normaux.
D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message à adresser aux auditeurs par rapport à l'association ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez besoin
Alors, je vais pas cacher qu'effectivement, les dons sont toujours une bénédiction et que nous, on a un devoir, et c'est un devoir absolu que je m'efforce, et même peut-être le premier rôle du trésorier, c'est de garantir le bon usage, d'une part légitime, mais surtout l'usage direct auprès des chats de tous les dons qui nous sont adressés. Donc ça, vous pouvez regarder sur Facebook et puis nous contacter. On vous donnera les moyens de nous adresser des dons. Le mieux est de faire des virements plutôt que des chèques, c'est plus sécurisé et puis c'est plus pratique par les temps qui courent. Les familles d'accueil, ça c'est vrai qu'on a toujours, je le disais tout à l'heure, le deuxième nerf de la guerre, c'est les familles d'accueil, et parfois c'est même le nerf de la guerre qui prend le dessus. Et puis, le fait aussi de communiquer autour d'eux, c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est toujours une aide précieuse, parce que le fait d'être relayé, le fait d'être connu auprès d'autres associations, ça nous permet de temps en temps d'organiser des choses. On a décidé cette année d'être beaucoup plus présent sur les forums d'associations, les fêtes des associations, on ira probablement dans l'année qui vient à la fête des associations à Nancy. Il y a probablement des choses qui se feront du côté de Saint-Nicolas-de-Port, puisque notre périmètre, effectivement, c'est officiellement le Grand Nancy, mais on va de temps en temps un petit peu plus loin, pour des raisons historiques, parce qu'on a eu des groupes de chats qui se sont développés là-bas. Donc nous, on a besoin de ces 3 choses-là. Et puis, on a toujours besoin d'un coup de main pour un trésorier qui avoue parfois être un peu au four et au moulin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être à la fois sur le terrain, s'occuper des chats, jouer le rôle de famille d'accueil, aller faire adopter des chats, et puis quand même faire un peu de comptabilité, parce que c'est une nécessité. C'est vrai que de pouvoir déléguer tout ou partie de ce que je fais, c'est bien. Moi, dans l'idéal, un trésorier, ça devrait, une fois par semaine seulement, faire les comptes en se connectant à la banque, et puis le reste du temps, tout devrait tourner sans aucune difficulté. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais c'est bien aussi, ça permet d'être au contact des chats et de ne pas perdre le contact avec la réalité, parce que la vraie réalité, le seul objet de l'association, c'est le bien-être des chats. C'est ça qu'il faut rappeler, marteler, et donc, si c'est mon dernier message, je pense que c'est le plus important.
Merci beaucoup Jean-Loup d'être venu.
Mais de même, merci Elisa de m'avoir reçu.
Pas de souci. Et puis on va se quitter en écoutant des gammes et des arpèges, toujours des aristos chats, et puis on se retrouve très bientôt pour une autre émission des Masques tombent.
Très bonne référence.
Sache que sa voix doit sortir du cœur en chantant ses camés, ses